Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Bonjour, je suis Gaël Châtelain-Berry, bienvenue sur mon podcast Happy Work, le podcast qui va améliorer votre bien-être au travail tous les jours. Cette semaine, comme une fois par mois, j'ai le plaisir de recevoir un invité de marque pour nous parler de bien-être au travail et de sa vision du monde du travail. Cette semaine, j'ai l'immense plaisir de recevoir Céline Lazorte, la fondatrice et présidente de Litchi.com. Je vous laisse découvrir cette interview. Je ne vous cache pas que j'avais hâte de la rencontrer et mes espoirs n'ont pas été déçus, c'est le moins que l'on puisse dire. Bonjour Céline.
Bonjour Gaël.
Je suis extrêmement heureux que vous me receviez aujourd'hui dans vos bureaux. Vous êtes la créatrice de Litchi.com, la célébrissime calognote en ligne. Alors, pour résumer votre personne, vous êtes un entrepreneur français, charismatique et innovant. Vous êtes une figure incontournable de la French Tech. À 36 ans, vous avez toutes les étapes de la vie d'une start-up depuis la création de Litchi.com en 2009 et Mangopé en 2013, jusqu'au rachat du groupe par Crédit Mutuel Arkéa en septembre 2015. Vous avez été nommé président du conseil de surveillance du groupe Litchi en juin 2019 et vous vous consacrez aujourd'hui essentiellement à vos activités de business angels avec Pumpkin, Frishti, Jimmy Fairly, Talent.io, Yuka, Tiller System et beaucoup d'autres. Et vous poursuivez votre engagement pour soutenir l'entrepreneuriat féminin. En 2019, vous avez cofondé avec votre amie et entrepreneur Tatiana Jama le génialissime collectif Sista qui œuvre pour plus d'égalité dans l'accès au financement des entreprises de la tech. Alors, je fais très peu de pubs, mais j'engage les personnes qui vont écouter ce podcast à aller faire un petit tour par wearesista.com. C'est absolument formidable ce que vous avez fait avec ça. Les campagnes de com sont géniales. Bref, allez voir ce que vous faites. Vous êtes administratrice du think tank Génération Libre qui vise à promouvoir toutes les libertés et également de la SNCF. Bref, Céline, je ne sais pas si vous en avez conscience, mais vous êtes non seulement une star du web et un exemple pour votre génération. Et très franchement, je suis un tantinet plus vieux que vous, mais j'ai le sentiment que pour votre génération, vous êtes un petit peu ce qu'était Marc Simoncini pour la mienne. Donc quelqu'un qui a bougé les lignes, qui a fait bouger les choses. Donc je suis assez impressionné, pour tout dire. Et je tenais absolument à vous interviewer, car vous êtes également une actrice significative pour l'égalité femmes-hommes dans le monde du travail. Vous vous définissez d'ailleurs vous-même sur votre compte Twitter comme une activiste de cette cause. Et c'est pour cela que je vous pose ma première question. Quand on fait autant de choses depuis autant de temps, parce que je passe aussi toutes les récompenses que vous avez, qui sont à peu près longues comme le bras, quand on a un parcours comme le vôtre, que représente votre activité professionnelle pour vous ?
Merci pour ce magnifique résumé. J'ai qu'une petite correction, si je peux me permettre.
Je vous en prie.
Je ne suis pas un entrepreneur, mais une entrepreneur.
D'accord. Autant pour vous. Mais c'est vrai qu'on s'y perd maintenant entre un entrepreneur, une entrepreneur ou une entrepreneuse.
Non, mais... Qu'est-ce qu'on met derrière les mots ? Je pense que moi, je tiens à ce que le masculin ne l'emporte pas tout le temps sur le féminin. Voilà.
D'accord.
Mais c'était vraiment avec beaucoup d'amitié. Qu'est-ce que représente mon activité professionnelle ? Je me sens bien ennuyée de poser cette question de répondre à cette question parce que j'ai pas le sentiment d'avoir d'activité professionnelle ou j'ai le sentiment d'avoir une vie. Rempli de sujets et de choses et de parfois combats qui m'animent. Et j'essaye d'être utile et aussi d'apprendre dans tout ce que je fais. Donc, que ce soit en tant que présidente de Litchi, que ce soit en tant que membre, enfin administratrice de la SNCF, que ce soit effectivement en tant que activiste ou je ne sais quel terme féministe dans le combat dans l'égalité femmes-hommes. Je crois qu'en fait, pour moi, ce qui est insupportable, c'est l'injustice. Alors bien sûr, il y en a énormément. Et évidemment, je me suis penchée sur celles pour lesquelles j'étais le plus sensible ou que je voyais le plus. Donc je n'ai pas vraiment d'activité professionnelle, et tant mieux. J'ai plein d'activités et elles m'enrichissent énormément.
Et est-ce que pour vous, finalement, votre activité professionnelle, c'est encore plus important qu'un acte politique, parce que j'ai le sentiment que dans votre engagement en tant qu'entrepreneur, Je fais hyper attention à ce que je dis.
Non, mais vous pouvez dire entrepreneur, entrepreneuse.
Entrepreneuse. En tant que femme d'entreprise, chef d'entreprise, est-ce que vous le voyez également comme un acte politique? Est-ce que, par exemple, Litchi, c'est une forme de laboratoire où vous dites « je vais changer les choses » Je vous ai vu une fois dans une conférence où j'étais extrêmement impressionné par l'importance que vous accordiez au fait que vos développeurs soient à minima 50% des développeuses. Alors, il y a le problème de formation qui fait que c'est toujours pas le cas, mais malgré tout, vous avez des actes politiques même dans votre métier.
Bah, surtout parce qu'en fait, ma conviction, c'est que faire évoluer sa société, ça permet de faire évoluer la société. Moi, je crois au modèle de l'entreprise. C'est pas une question d'être ultra-capitaliste, mais moi, je crois qu'on peut faire les choses bien, on peut les faire avec plus de sens, plus de justice. Et que l'entreprise est un magnifique lieu pour faire évoluer les choses. On n'a pas aujourd'hui 50% de développeuses, on est plutôt à 30%, ce qui est déjà énorme.
Ce qui est déjà plus de 10% de plus.
C'est 10 fois plus,
10 fois plus.
Que la moyenne, donc c'est énorme. Et effectivement, c'est une attention qui a été dès le début importante pour nous et qui est toujours aujourd'hui permanente. Et encore une fois... on fait pas, disons que à compétences égales, on va privilégier la diversité. Mais il y aurait moins d'hommes, on choisirait des hommes. C'est pas un tropisme féminin par principe, ça l'est par justice.
D'accord. Et est-ce que vous pensez que la perception des salariés ont que les salariés ont leur travail a évolué depuis quelques années?
Sûrement. Moi, je me suis ressentie en tout cas d'une génération qui et c'est vrai. Était plus attentive à l'équilibre vie personnelle, vie professionnelle, à faire les choses avec sens, à l'impact qu'elle a. Et là où je pense que la génération de nos parents était plus attentive à passer 40 ans dans la même entreprise, à avoir une vraie dévotion pour son employeur, qu'il soit privé ou public. Là où notre génération, parfois on la prend comme plus individualiste, je pense pas, mais plus... voilà, avec un meilleur équilibre. Et c'est vrai que moi, dans mes expériences professionnelles avant Litchi, donc principalement pendant mes études, j'ai beaucoup travaillé et j'étais assez sensible aux inégalités de principe, au fait de, voilà, il faut bien rester dans sa boîte, il ne faut pas trop en faire, il faut... je trouvais que c'était assez injuste, j'ai le souvenir d'un truc, une anecdote vraiment... peu significative, mais j'étais en stage, j'avais demandé un jour de congé pour mon anniversaire pour partir en week-end à Londres, et ça avait été une sorte de je sais pas, presque monnaie d'échange de par ma boss qui systématiquement, dès qu'il y avait moindre truc, me disait « Attends, mais j'ai pas encore signé ta journée pour une journée, j'ai fait 7 mois de stage, je travaillais 9h à 20h tous les jours et souvent bien plus tard, pour 300€ par mois, et je comprenais pas ce chantage... émotionnel qui en plus à part créer uniquement de la défiance de ma part n'apportait aucune ça me faisait pas arriver une heure plus tôt et ça m'a beaucoup animée de me dire on peut avoir un modèle d'entreprise un peu plus juste je crois et plus aligné entre les collaborateurs, l'entreprise, l'actionnaire et bien sûr tout n'est pas parfait ici mais en tout cas on a vocation à faire les choses différemment et surtout à les améliorer quand il y a quelque chose qui ne va pas.
Mais ce qui fait que vous faites des choses quand même, alors je sais qu'on ne se connaît pas très bien, mais j'imagine que vous allez dire, mais non, pas du tout, mais que vous faites des choses assez révolutionnaires dans votre entreprise, et je pense notamment, c'est une des interventions que vous aviez eues il y a 2-3 ans, pour dire que vous aviez imposé le congé de paternité de 1 mois payé à 100% suite à un collaborateur que vous avez vu le lendemain de l'accouchement de sa femme. Vous lui avez dit, mais qu'est-ce que tu fais là?
Et donc, je me souviens même pas de ça, tiens.
Mais moi, je me rappelle très bien.
C'était 3 semaines jusqu'à il y a, effectivement, jusqu'à il y a quelques semaines. Oui, enfin, je sais qu'effectivement, il y a quelques années, on s'était dit, on avait bu l'apéro ici, puis on s'était dit, oh là là, c'est vraiment super cette boîte. Il y a plein de femmes qui ont des postes à responsabilité. Il se passe plein de choses justes. Et puis en fait, on s'est rendu compte que le congé... Moi, j'avais pas d'enfant à ce moment-là et que le congé paternité, on donnait seulement les 11 jours légaux et que c'était une aberration et que si on voulait être droit dans nos bottes et que si on voulait avoir la prétention de ce dont on se targuait, il fallait faire changer ça. Et le lendemain, on a dit, bon, bah, il faut passer à 3 semaines. Et j'ai quand même vu un vrai changement et je me souviens du premier collaborateur, en tout cas, qui l'a pris, puisqu'il s'appelle Jordan, c'est le CTO Litchi. Et effectivement, depuis le Parental Act, ça a été passé à 1 mois. Ça a toujours été 100% rémunéré. Enfin, l'idée de faire un truc à 2 vitesses me paraît tellement contre-productive. Voilà. Et je crois que j'ai vu plein d'effets positifs à cette démarche, et notamment le fait que chacun sentait que c'était juste, en fait. Et donc, quand les valeurs du collaborateur elles sont alignées avec les valeurs de l'entreprise, je crois que le pari est gagné.
Alors, quelque chose qui est marquant quand on arrive dans votre siège social, c'est... Bon, ça fait très start-up, c'est très joli, c'est très beau, mais malgré tout, on sent qu'il y a une forme de plénitude. J'étais très étonné, j'attendais. Mm-hmm. Le nombre de personnes qui m'ont dit bonjour en l'espace de 5 minutes, c'est quand même assez impressionnant. Pour vous, la vision du bien-être au travail, c'est quoi? C'est une forme d'humanisme ou ça passe par d'autres choses? Et si vous aviez des exemples?
Ah, c'est marrant parce qu'on m'a fait la même remarque la semaine dernière. Quelqu'un qui est venu me rendre visite et qui m'a dit « Je suis étonnée du nombre de gens qui disent bonjour ». Je crois quand même que c'est la base de la vie en communauté, mais j'avais un de mes collaborateurs qui m'avait dit quelque chose d'assez juste. Il m'avait dit les salariés ressemblent à leurs dirigeants, et je crois que c'est assez vrai. On impulse beaucoup de choses. Moi, c'est même, enfin, ça va au-delà de la question du bien-être. Je pense que c'est la question d'être soi-même au travail. Le travail n'est pas un masque qu'on porte et qu'on enlève. Je pense que le travail, ça doit être un lieu dans lequel on peut être soi-même, apporter des choses, apprendre des choses. Parfois, l'entreprise doit pouvoir compter sur nous. Parfois, on doit pouvoir compter sur l'entreprise. Pour moi, c'est vraiment un contrat dans le sens moral du terme. Donc, c'est au-delà du bien-être. C'est l'idée d'être soi-même avec ses défauts et ses qualités, avec ses passions et de trouver un équilibre dans ce magma qui est en permanence en évolution. Et donc évidemment, ça passe par le fait d'être respectueux, ça passe par le fait de... Il y a plein d'initiatives ici, et d'autant plus maintenant que je ne suis plus opérationnelle. La plupart des initiatives ne sont plus les miennes. Et les nouvelles initiatives, ce que je trouve en tout cas encore mieux, c'est qu'elles ne sont pas nécessairement portées uniquement par les dirigeants, mais par les salariés eux-mêmes. Et il y a un grand projet qui est mené pour avoir un impact plus fort, pour avoir limité son empreinte carbone, pour des projets qui sont alignés. Il y a des collectes de vêtements qui sont faits. C'est des choses anodines, mais moi, je trouve qu'elles sont fortes de sens parce qu'elles sont portées par les collaborateurs et ils y associent l'entreprise. Et en fait, moi, j'ai la conviction que ça fonctionne comme ça. Le dirigeant, il est là pour impulser quelque chose et ensuite, ça fonctionne si chacun se sent partie prenante dans cette direction. Pour moi, c'est bien au-delà du bien-être. C'est plutôt une question d'ADN.
D'accord. Alors, avant-dernière question, que ce soit sur le bien-être au travail ou l'égalité femmes-hommes, je pense qu'il y a plein de gens qui vont vous écouter parler et se dire « mais je vais envoyer mon CV immédiatement parce que vous êtes très, très atypique, malheureusement.
Ah » bon.
En France, on est numéro 2 mondial du burn-out. On le dit, où il suffit de parler avec ses copines. Le sexisme en entreprise est quand même quelque chose d'assez présent. L'égalité des salaires, on est plutôt pas mauvais en France, mais on a encore beaucoup de chemin à faire. Et au milieu de tout ça, donc un peu des informations contradictoires entre ce qui se passe dans votre entreprise et ce qui se passe dans la société française en général, est-ce que vous restez optimiste?
Bien sûr, mais j'aimerais déjà être tout à fait honnête. Ça n'est pas parfait. Il y a sûrement encore plein de choses à améliorer, mais déjà on en a conscience et surtout on a la volonté que chacun puisse faire partie d'une évolution d'entreprise. Donc je voudrais surtout enlever l'idée qu'on est parfait et qu'on donne des leçons aux autres, loin de là. Bien, moi je suis une éternelle optimiste, donc j'ai la conviction que les choses ne font que s'améliorer. Il faut évidemment être vigilant, les dirigeants ne sont pas parfaits, le contexte en plus actuel va être difficile de par les crises du coronavirus. Moi je vois beaucoup de dirigeants dans des vraies difficultés financières et donc c'est l'entreprise au global qui peut être impactée. Mais en tout cas oui, je pense que moi je crois pas du tout à l'état tout puissant, je crois au contraire à vraiment une philosophie libéral et que chacun puisse voilà, porter sa pierre à l'édifice. Et c'est aussi ça les valeurs de Litchi, de se dire, bah, en fait, on a mis en place un système qui permet à chacun d'initier une collecte, que ce soit pour lancer un projet artistique, que ce soit pour un événement de solidarité entre proches. Et en fait, je crois en la force du collectif. Et j'ai cette conviction que plus les gens seront libres, et plus la société, mieux elle se portera, et plus chacun sera heureux.
D'accord. Alors, dernière question, Céline. Si vous deviez donner... Alors, je sais que la question est forcément réductrice, mais si vous ne deviez donner qu'un seul conseil à un jeune dirigeant ou à un manager dans une entreprise, quel serait-il ? Oui, je sais, il faut faire le choix entre plein de possibilités. Cette question est cruelle.
Bah, comme c'est deux typologies de personnes différentes, un jeune dirigeant ou un manager, il y a une chose en tout cas qui à mon avis, est commune, c'est de bien s'entourer. Honnêtement, si je dois être assez objective sur mes, on va dire, forces, je crois que ça a été une grande force pour moi d'avoir la capacité de m'entourer de gens qui étaient meilleurs que moi. Et ça, j'en suis convaincue. Et de savoir les unir ensemble. Il faut prendre... Enfin, c'est l'univers qui est créé autour d'une équipe, d'un quelqu'un qui démarre dans l'entrepreneuriat humain. Cet univers-là, il change la donne. Et en fait, on est porté par l'énergie collective, on est porté par l'idée de faire mieux, d'embarquer une équipe. Et donc, il faut recruter par rapport au comportement et pas par rapport aux compétences. Les compétences, elles évoluent dans le temps. Le comportement, il ne change pas. Donc, si j'avais un conseil à leur donner, c'est de bien s'entourer et de s'entourer de gens qui sont positifs.
Alors, je ne vais pas tenir ma parole. Je vais en rajouter une pour rebondir sur ce que vous dites. Votre côté humble, c'est impressionnant le nombre de fois où vous avez des propos extrêmement modestes pour quelqu'un qui, quand même, je parle un peu vulgairement, pourrait se la péter sévère. Est-ce que c'est l'expérience de l'entreprise qui vous a amené ça, ou c'est votre éducation, c'est un mélange de tout ça, ou c'est parce que parfois vous avez été moins humble et vous êtes aperçu que ça ne fonctionnait pas, et qu'au contraire, il faut savoir, quand on dirige une entreprise et quand on mène plein de combats, être plus petit que sa cause?
Non, mais d'abord, moi je viens d'une famille de médecins universitaires et de l'hôpital. Donc quand on a été élevé par des gens qui sauvent la vie des autres, on a une vision de son propre travail un peu différente. Donc je crois que ça a effectivement beaucoup joué dans mon éducation. Et puis surtout, je sais que le succès, il dure pas. Que la vie, elle est faite d'aller d'échec en échec. Moi, j'ai pris des baffes systématiquement dans ma vie professionnelle, plus que de choses que j'ai réussies. Donc voilà, et des choses à apprendre, j'en ai encore beaucoup. Et en fait, pour moi, je vois pas du tout le fait d'avoir monté une boîte qui est connue, qui a eu un service qui est utilisé, comme une réussite. Donc je suis très, je veux dire, reconnaissante de ce que ça m'a permis de vivre, de ce que ça me permet d'apprendre. Je sais aussi que parfois, franchement, j'en ai chié et que voilà, je mérite aussi le plaisir de la vie que je vis aujourd'hui. Mais pour autant, je sais que les choses ne durent pas nécessairement et qu'il donc il faut l'apprécier. Et puis qu'il y a plein de gens qui font plein de choses beaucoup plus grandes, et donc il faut savoir aussi écouter.
Mais écoutez, Céline, je vous remercie mille fois pour cet entretien. C'est à la hauteur de mes attentes, et je vais finir exactement comme j'avais commencé, parce que quand Marc Simoncini parle du succès de Mythique, il explique avant tout le nombre de faillites qu'il a fait avant. Et donc c'est un petit peu ce que vous dites, et je trouve que ça donne plein d'espoir pour tous les gens qui ont envie d'entreprendre. Je répète que allez sur wearesista.com pour toutes les femmes qui auraient envie d'entreprendre.
Les femmes et les hommes.
Les femmes et les hommes, certes, mais c'est vrai, les statistiques ne plaident pas en la faveur d'un équilibre, et il faut changer ça. Donc bravo pour votre engagement, bravo pour votre boîte, il n'y a même pas besoin de le dire. Et encore, mille fois merci pour votre temps. Merci beaucoup.